Le grand témoin. Bonjour, heureuse de vous retrouver pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Avec moi dans ce studio, Augustin Kibasa Maliba. À ne pas confondre avec Frédéric Kibasa Maliba. C'est son fils, hein. C'est ce que vous avez deviné chez vous à la maison. Homme politique congolais, deuxième vice-président du parti politique UDPS Kibasa. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission, Augustin Kibasa Maliba.
Merci bien, madame.
Alors, avec vous, dans notre entretien, on va parler de vous, de votre personne, de votre parcours politique.
Oui.
Vous êtes deuxième vice-président du parti politique UDPS Kibasa. Est-ce qu'un parti familial? La réponse est tout à l'heure dans cette émission. On apprend aussi que l'UDPS Kibasa a quitté la majorité présidentielle.
Oui.
On sait qu'elle était d'abord dans l'opposition, puis elle a rejoint la majorité. Aujourd'hui, elle quitte la majorité pour se retrouver où? Point d'interrogation. La réponse tout à l'heure aussi dans cette émission.
D'accord.
Mais avant ça, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Lubumbashi.
Oui.
Un certain 30 novembre 1971.
C'est ça, oui. C'est bien ça.
Et c'est là où vous avez grandi?
Non, j'ai grandi plutôt à Kinshasa. Je peux dire que je peux me targuer d'être un bon Kinois.
Donc, juste après votre naissance, vous êtes venu à Kinshasa?
Exactement.
Vous avez passé toute votre enfance, jeunesse à Kinshasa?
Oui, en tout cas, le gros de mon enfance, je l'ai passé ici. Les études primaires et secondaires, j'ai eu mon diplôme d'État ici à Kinshasa, avant d'aller poursuivre les études universitaires dans un pays étranger.
Qu'est-ce qui vous a motivé à aller à l'étranger pour poursuivre vos études universitaires?
Vous savez, en fait, il y a d'abord le souci de bien apprendre. Parce que je pense que...
Parce qu'on n'apprenait pas bien ici?
Non, pas seulement ça, mais on peut dire aussi que sur le plan politique, malheureusement à l'époque, enfin, malheureusement, ça dépend du bord où on se trouve, il y avait beaucoup de sévices, beaucoup d'attaques sur la famille qui ne nous permettaient pas d'étudier correctement. Donc si on devait se donner la chance de faire des études à un certain moment, il fallait peut-être aller à un endroit où il y avait beaucoup plus de quiétude pour pouvoir faire ces études-là.
Et vous avez fait des études en administration des affaires, option finance.
C'est bien ça. Je fais l'administration des affaires, option finance, à l'Université du Québec à Montréal. C'est au Canada. Les finances, parce que j'estimais, en fait, que l'une des tares du manque de développement ou qui nous empêche de développer le potentiel de la richesse congolaise, c'est les finances, c'est la maîtrise des finances, je veux dire. C'est aussi... la technologie, bien entendu, parce que bon, c'est vrai qu'on a un potentiel, hein, on dit que nous sommes scandaleusement riches, mais en potentiel, tout simplement, il fallait essayer de voir comment transformer. Mais je dois vous dire que ma première université, elle est politique. J'ai vraiment cheminé avec l'UDPS, surtout que la permanence du parti, c'était notre résidence. Donc vous comprendrez bien que j'ai vécu dans ça tous les jours, et je pense même que à un certain moment, la politique avait pris le pas sur les études. Ça, c'est une réalité. Je crois que c'est mon premier domaine d'étude, la politique.
Sur les traces de feu votre père.
Exactement.
On va en parler, on va y revenir tout à l'heure lorsqu'on parlera de votre parcours politique ou de vos débuts en politique. Comment vous avez grandi, dans quelles conditions? Vous avez évoqué un peu cet aspect ici. Une enfance un peu difficile parce que la famille était attaquée de part et d'autre.
Tout à fait. Je peux vous dire déjà qu'en 1983, c'était la première expérience, au-delà de tous les sévices. Mais en 83, c'était la première expérience. Pourquoi je dis ça? C'est parce que un beau jour, le pouvoir à l'époque avait décidé de reléguer les fondateurs de l'UDPS avec leur famille. Et bon, il se fait que je me trouvais être membre de la famille d'un des fondateurs. On s'est retrouvé du jour au lendemain comme ça au village. Et c'était un contraste terrible pour un enfant. Je n'étais qu'un enfant. Et en plus, il y avait des plus jeunes que moi, pour vous dire. Et vont vous retrouver dans un milieu pratiquement hostile à votre façon de, en fait, votre manière de vivre de tous les jours. Il n'y a pas d'électricité, il faut aller puiser l'eau à un kilomètre et plus, il faut aller, les serpents sont juste à côté.
C'était très dur.
C'était très dur. C'était violent même, je peux le dire. Je peux le dire. C'était pas du tout évident. Alors bon, mais ce n'est pas.
C'était
tout.
Juste pour un temps.
Oui, mais ça a pratiquement pris 2 ans. Hein. Donc vous comprendrez que ce n'est pas du tout facile pour l'épanouissement des enfants, hein, qui à un certain moment, je vous dis que moi à l'époque j'en avais 12 ans, mais il y avait des plus jeunes que moi, hein, vraiment plus jeunes. Donc ça fait que c'était très difficile. C'était très difficile pour soi-même, c'était très difficile pour les frères et sœurs autour de nous, mais c'était très difficile pour les parents, particulièrement pour notre défunt père qui se disait en fait que bon, mes enfants sont dans cette situation parce que j'ai décidé de prendre un chemin. Mais bon, il nous faisait très bien comprendre tous les jours que c'était nous faisions partie en fait de la nation congolaise, et que s'il se battait pour toute une nation, donc il se battait aussi pour sa famille, ce sont des situations qui arrivent, nous l'avons accepté, mais bon, ce n'est pas tout, hein. Ça c'était vraiment le début, mais il y a eu l'évolution, hein. Il y a eu l'évolution, parce que le plus dur, hein, je dois le dire, c'est d'abord en 92, où il y a eu un bombardement à Limété, à la résidence de Limété, évidemment, mais il faudrait que je précise, hein, parce que beaucoup ne savent pas pourquoi il y a eu ce bombardement-là. En fait, il y a eu ce bombardement parce que, lorsqu'il fallait élire le Premier ministre, à l'époque, le candidat de l'UDP, c'était Étienne Tshisekedi, de l'opposition d'ailleurs, pas seulement de l'UDP, c'était Étienne Tshisekedi, le président de l'époque, Feu Mobutu Sese Seko, tenait à ce que ça se fasse par consensus, parce qu'il considérait que si on allait par un vote tout à fait normal, c'était comme c'était son échec, parce que c'était entendu que Étienne Tshisekedi allait passer Premier ministre. Bon, évidemment, il y a eu conciliabule. Et comme le feu Kiba Samaliba était président de l'UDPS et de l'Union Sacrée à l'époque, il a pris ses responsabilités pour dire, écoutez, nous nous sommes déjà avancés sur une voie électorale, nos partenaires ne comprendront pas que nous puissions virer comme ça vers un consensus, faisons les élections, mais bon, le consensus de la gestion du pays, on peut voir ça après, mais allons-y. Et bon, pour bloquer justement cette élection, ça s'est passé la veille, ce bombardement, pour bloquer l'élection, ils ont bombardé, et bon...
Et vous étiez à la maison ?
Personnellement, je n'étais pas là, mais mes frères et sœurs étaient là. Alors, et les parents aussi, bien entendu. Hein? Oui, il y a eu ce bombardement pour essayer de bloquer, justement. Les... Moi, je venais de partir 2 mois avant, d'ailleurs. Ils ne se sont pas arrêtés là. Quelques mois après, là, nous sommes en janvier 93, et ça, c'était le plus dur, hein, parce que il y a eu...
Une fois de plus, on a bombardé votre résidence.
Une autre résidence, cette fois-là, pour vous dire que ce n'était pas une coïncidence. Une autre résidence cette fois-là, et malheureusement, nous avons perdu notre grand frère, Berto Kibasa, qui est tombé...
Lors de ce bombardement.
Lors de ce bombardement-là.
Et à son âme.
Merci beaucoup, et je ne peux pas vous dire dans quel état son corps était. C'était horrible. On ne peut pas comprendre que la cruauté humaine pousse jusqu'à ce niveau-là.
Et ça vous a dégoûté, j'imagine. Le régime vous a dégoûté.
Terriblement.
Vous aviez eu envie de quitter le pays, partir, ou continuer la lutte aux côtés de votre père.
Non, mais en fait, vous voyez, je crois qu'il a réussi. Il a réussi à nous inculquer le fait que vaut mieux vivre libre qu'esclave. Hein. Donc, s'il fallait se battre, justement, s'il fallait qu'il y ait des sacrifices afin d'atteindre un bien-être pour tout le monde, ça en valait la peine. Hein, ça en valait vraiment la peine. Mais bon, un dégoût, c'est certain. Hein. C'est clair que, vous voyez, quand on apprend que ça arrive aux autres, on le porte différemment, mais quand ça nous frappe, ça frappe dans la maison, un monsieur, un frère avec qui vous partagez le quotidien, c'est très difficile, hein, c'est très difficile à vivre. J'avoue que pendant un bon bout de temps, c'était difficile à porter. Peut-être que la force d'accepter est venue justement par le fait que le feu Kibasa avait dit que malgré ce qui s'est passé, on doit continuer la lutte, et même je pardonne ce qu'ils ont fait. Ce que les autres ont fait à mon fils.
Alors, il
ça
a
nous
pas...
a donné quand même un certain courage de continuer avec lui.
Alors, il n'y a pas eu que des mauvais souvenirs pendant votre enfance.
Bon, non, il n'y a pas eu que de mauvais souvenirs, non, bien entendu. Hein,
alors, c'est quoi le bon souvenir qui vous a marqué pendant votre enfance?
Oulala. Difficile à dire, mais bon, je crois que le plus important, c'était... on était tellement... Je vous ai dit tout à l'heure, hein, ma première école, c'est la politique. On était tellement obnubilés par les fondateurs, par leur charisme. Et je crois que c'était ça mon enfance, c'est ce qui me portait en fait. Quand j'apprenais qu'il y avait une déclaration qui a été faite, quand il y avait un meeting, quand il y avait qu'on devait participer à une réunion, c'était ça le plaisir de l'enfance. Parce que je vous ai dit, hein, quand tout a commencé, j'avais à peine 11-12 ans, et bon, on a vécu dans ça, hein, c'était vraiment ça, c'était quand ça allait bien, quand on sentait que bon, allez, on prenait le devant, le déçu par rapport, et que surtout, on sentait bien que la population croyait en cette vision, en cette lutte, ça c'était ça le bonheur. Je peux dire que mon bonheur, c'est beaucoup plus celui-là.
Alors, Augustin Kibasa Maliba, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Oula, difficile, mais je crois que je n'aime pas beaucoup le mensonge, pas du tout d'ailleurs. Je crois que c'est très important qu'on arrive à souvent se dire la vérité, et c'est la vérité qui permet à la société d'avancer, dans le bon sens du moins.
C'est quoi votre plat préféré?
Ouf, bon, mais je crois que... le pondou sûrement. un bon foufou. et un poisson bien grillé. Je crois que ça ferait déjà mon affaire.
Sportif?
Oui, sportif. J'ai fait du basket aussi, tiens, dans ma jeunesse.
Ah, je vois par la taille.
Oui, j'ai été basketteur dans ma jeunesse et même maintenant, hein, je fais ça, mais au niveau d'une amicale de loisirs, on va dire. Hein. Mm-hmm. Je continue à le faire. J'aime beaucoup le basket. Ouais, j'aime beaucoup le basket.
Marié, père de combien d'enfants?
Marié, père d'un enfant qui s'appelle Frédéric Ibassamayou.
Il a pris le nom de son grand-père.
Hein. Exactement.
Alors, Augustin, après vos études au Canada, vous revenez au pays.
Exact. En fait, je peux vous dire que pour moi, c'était vraiment une pause. Je me disais, il faut aller acquérir le savoir pour venir servir au pays. Et dès que j'ai fini, j'ai eu l'opportunité à l'époque de tomber sur des amis qui étaient en même temps, qui voulaient investir au pays. Donc je les ai encouragés à investir, particulièrement dans le domaine de l'or. C'est Villeur International, c'est la compagnie Villeur International qui d'ailleurs avait eu des accords préliminaires avec Okimo à l'époque, mais malheureusement il s'en est suivi la guerre du 2 août qui a fait en sorte que les investisseurs ne sentaient pas une certaine sécurité de leurs finances. Ça bloquait plus ou moins le processus. Et puis bon, malheureusement, ils ne sont plus jamais revenus. Mais bon, pour moi, le plus important, c'était de me dire, je suis chez moi, je rentre chez moi, je me bats tel que je peux, au lieu de rester vivre à l'étranger, en fin de compte, je n'ai rien contre l'étranger. Mais
donc l'étranger, c'était pour les études.
C'était pour les études, c'est ce qui m'intéressait le plus. Parce que mon pays, je ne peux pas vivre en dehors de mon pays, c'est pas possible.
Alors les investisseurs sont rentrés, le projet n'a pas abouti à cause de la guerre.
Exactement, le projet n'a pas abouti à cause de la guerre, mais malgré tout, je me suis organisé pour essayer de monter une petite structure qui s'appelle Luminaire du Congo, qui a évolué aussi dans le domaine des minéraux, particulièrement l'hétérogénite. Mais il s'est fait aussi que, je peux vous dire, que la législation changeait tellement, parfois on stoppait, on recommençait, et tout ceci, pour les investisseurs frileux, ce n'est pas du tout bon. Et j'avoue que c'est quand même des expériences assez difficiles qu'on a connues. Mais bon, je sais que dans le domaine, il y en a aussi qui ont bien réussi, tant mieux pour eux. Mais en ce qui me concerne, il y a eu des coïncidences, on va dire. Hein, parce que bon, quand je me battais encore pour cette société, l'UNR du Congo, en même temps, j'étais sur le plan politique, je n'ai jamais quitté la politique. J'ai vécu au Katanga, justement, parce que bon, c'était à l'époque, c'était par rapport à l'hétérogénite. Et comme j'étais dans la politique, dans le mouvement des jeunes de l'UDPS, j'ai été élu président de la jeunesse.
Et quand papa était ministre des Mines, vous aviez certains petits privilèges.
Je peux vous dire haut et fort, absolument pas. Ce monsieur-là, malheureusement, beaucoup ne l'ont pas connu. Il y a eu beaucoup de caricatures autour de la personne, mais je peux vous dire que pour lui, 1 plus 1, c'était 2. Ça ne pouvait pas être 2,2. Non, c'était 2. Il était très correct. Il essayait vraiment d'être très correct avec tout le monde, face à lui-même. Parce que bon, en fin de compte, je crois que c'était un bon chrétien. Il a vraiment cru dans ce commandement qui dit « il faut aimer son prochain comme soi-même ».
Vous ne pouvez que dire ça.
Oui, évidemment, mais d'autres personnes vous diront la même chose que moi. Ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont vécu son quotidien vous diront la même chose que moi.
Alors, vous avez mis en place cette société Luminaire du Congo. Vous êtes propriétaire, administrateur. Est-ce que la société existe toujours?
Non, justement, j'étais en train de vous dire tout à l'heure qu'il y a eu une cassure parce que vous voyez bien que c'était aux alentours de 2000. J'étais président en même temps président de la jeunesse, mais ça 2 ans plus tard, il y a eu Sun City et malheureusement à Sun City, c'est pour la première fois que le feu président Kibasa est tombé malade. C'était grave, il est entré à l'hôpital et en tout cas c'était assez difficile. Déjà à l'époque, il était question qu'on puisse quand même revenir sur place, essayer de suivre de près tout ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'étais finalement conseiller diplomatique dans le bureau du feu président. Une année plus tard, il en est décédé. C'était difficile pour moi de rester sur place à Lubumbashi pour essayer de suivre l'évolution de la société luminaire du Congo. Il s'est fait que je me suis dit, bon, écoutez, on ne va pas laisser le vide. Il faut s'embarquer en plein dedans dans la politique avec tous les risques qu'on pouvait encourir. Quoique, bon, on avait encore vraiment besoin du feu Kibasa Maliba, qui est décédé malheureusement le 4 avril 2003. Donc depuis ce moment-là, on est en plein dans la politique et on essaie vraiment de faire que ça.
Bon. Donc on comprend que la société n'existe plus.
Non, la société n'a plus évolué. La société n'a plus évolué. Mais par contre, en dehors de la politique,
Vous êtes promoteur d'école.
Exactement, parce que nous pensons que l'une des tares aussi de l'évolution dans notre pays, c'est le manque d'éducation de plusieurs, et que on essaie de faire ce qu'on peut pour éduquer au mieux nos enfants, parce que nous pensons que c'est eux qui porteront le destin de ce pays demain.
Augustin Skibassar, parlons de votre expérience politique.
Oui.
Vous êtes né dans la politique, vous avez grandi avec la politique.
Oui.
C'est ça qui vous a emballé, qui vous a poussé ou motivé à vous lancer, à être actif en politique?
Je crois pas seulement le fait que je suis né en politique, mais j'ai été charmé par la force de caractère, hein, l'envie de bien faire de mon défunt père, tout particulièrement. Donc ça a commencé chez moi. Et moi, j'ai eu la chance, hein, de côtoyer Étienne Tshisekedi, Vincent Boinquem, le professeur Léaou.
Les fondateurs, en fait.
Oui, c'est vraiment des gens qui ont marqué ce pays. Et bon, je les voyais au quotidien. J'avais la chance de les saluer, d'échanger deux, trois petits mots avec eux. Et vous comprenez que c'est l'ensemble de tout ça qui a augmenté ma détermination à pouvoir faire la politique, mais au-delà de tout, c'est pour qu'on arrive à changer vraiment les choses, qu'on arrive à apporter un bien-être à tous les Congolais.
Changer les choses, ça veut dire quoi concrètement?
Mais
tout le monde parle du changement.
Ou justement, concrètement, ça veut dire déjà mettre fin à l'impunité. Mettre fin à l'impunité. Vous savez, aujourd'hui, c'est un slogan, hein. Tout le monde dit non. Il y a le fameux slogan tolérance zéro et tout ça. Mais bon, quand on regarde les faits, non, c'est tolérance presque 100%. C'est pas possible. Je peux vous donner des cas concrets, hein, par rapport à la justice. Aujourd'hui, nous, à l'UDPS Kibassa, nous avons l'un des nôtres qui croupit en prison, l'honorable Valo Kiboko. Et je peux vous dire que c'est un procès totalement politique, pour la simple et bonne raison que dernièrement les avocats ont fait remarquer, on l'accuse de haine raciale, haine tribale ou raciale. La législation congolaise prévoit 2 ans, au maximum. Mais la justice l'a condamné pour 3 ans. Allez donc m'expliquer ça. La gouvernance elle-même, elle laisse à désirer aujourd'hui.
Là, vous critiquez le régime en place, alors qu'on sait que l'UDPS Kibassa était de la majorité présidentielle. Comment
alors,
vous expliquez cela?
Tout à fait. Je vais être clair sur la question. Vous savez, nous ne faisons pas la politique pour le plaisir de le faire. Nous faisons la politique à idéologie d'abord. Nous sommes socialistes, les sociodémocrates. Et le parti phare de la majorité, c'est un parti sociodémocrate aussi comme nous. Mais au-delà de tout, ce qui nous a vraiment attirés dans un premier temps, c'était la charte de cette majorité. Je ne sais pas si vous l'avez lue, mais elle parle de démocratie, de droit de l'homme, de justice. En fait, des valeurs que nous défendons. Et quelque part, avoir été dedans nous a fait constater ou remarquer que nous étions loin de la réalité. Il fallait prendre aussi le courage, de la même manière que nous sommes entrés, en sortir pour dire que nous ne retrouvons plus les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus, les valeurs pour lesquelles l'UDPS a été créée en 1982, et nous pensons qu'il faut être du côté de la population, du côté du changement pour
essayer. C'est-à-dire l'opposition?
Nous, l'opposition, en tout cas, mais vous savez.
Est-ce qu'on va prendre votre parti vraiment au sérieux? Lorsqu'on sait que ce parti était d'abord dans l'opposition, c'était un parti de l'opposition, vous quittez l'opposition, vous adhérez à la majorité présidentielle, aujourd'hui vous quittez la majorité présidentielle pour entrer dans l'opposition. Est-ce qu'on va vous prendre au sérieux?
Nous ne sommes pas allés là-bas pour applaudir qui que ce soit. Nous sommes allés parce que nous avons cru qu'il y avait des valeurs qui étaient les mêmes que nous, et à notre corps défendant, nous nous sommes rendus compte que d'une part, il n'y avait même pas un vrai débat dans cette majorité. Et d'autre part, la dérive est presque totale aujourd'hui. Donc pour nous, c'était totalement irréaliste de rester là-bas. Est-ce qu'on nous prendra au sérieux, on ne nous prendra pas au sérieux? Je crois que c'est par rapport à nos actes, à nos discours, même quand nous étions dans la majorité, et je peux mettre n'importe qui à défi, suivez-nous et vous vous rendrez compte que nous étions en train de critiquer les antivaleurs, malgré que nous étions dans cette majorité-là.
Vous étiez étouffé, parce que le parti était presque...
Il y avait un slogan dans cette majorité, on disait que UDPS Kibassa, UDPS Tshisekedi, ça reste UDPS, donc... La porte était apparemment ouverte, mais nous n'avions jamais en réalité fait partie de cette majorité. On ne nous a jamais accepté. C'est peut-être ça que je dois dire aujourd'hui et personne ne me contradira là-dessus.
On ne vous a pas accepté, mais vous y êtes quand même allé.
Oui, parce que nous sommes allés, je vous ai dit, hein, par idéologie, pour besoin des valeurs, pour besoin, pardon, de défense de certaines valeurs. Mais la réalité nous a rattrapés. Hein. Et il faut assumer, justement. Il faut assumer. Mais je dois vous dire qu'il y avait, beaucoup de conflits politiques qui touchaient directement à notre parti UDPS, dit Kibasa. Et si nous n'avions pas fait preuve de beaucoup de stratégies, je crois que ce parti n'aurait pas existé aujourd'hui.
Ben, excusez-moi de vous le dire. Hein, oui, après la mort de Frédéric Kibasa Maliba, on a eu l'impression que le parti avait pratiquement disparu.
Je veux vous dire pourquoi. Je veux vous dire pourquoi. Premièrement, il y a eu des conflits internes au sein de notre parti. Parce qu'un beau jour, le ministre de l'Intérieur nous a fait dire, ou nous a fait en tout cas par courrier, nous a fait dire que nous n'existions pas du tout. Et que c'est un autre fondateur qui était assez proche du ministre ou de la mouvance à l'époque déjà, qui avait le droit de porter ce nom-là. Et chemin faisant, quand il fallait aller, c'était pratiquement la veille des élections de 2006. Chemin faisant, il s'est fait que, malheureusement, il a même voulu, ce fondateur-là, nous débarquer des listes des listes électorales. Il fallait apporter le problème devant la Cour suprême de justice. Et je peux vous dire que c'est seulement la Cour suprême de justice qui nous a réhabilités. Vous comprendrez qu'à l'époque, on sentait que c'est peut-être la ligne dure de l'UDPS. Nous représentions la ligne dure de l'UDPS. Et je dois vous dire, quand je parle de nous, je parle du fondateur Lumbu, qui est président de l'UDPS, qui bat ça aujourd'hui. Il a aussi rédigé la lettre de 52 pages du fondateur Lusanda, qui est premier vice-président de l'UDPS qui passe aujourd'hui, qui est député national, contrairement à ce que vous pouvez dire, dont nous existons quand même, qui a aussi rédigé la lettre de 52 pages, et beaucoup d'autres personnalités qui ont toujours été là. Je ne veux pas me mettre à citer tout le monde, sinon on ne va pas finir l'émission. Et donc, c'est pour vous dire qu'on avait senti qu'il y avait vraiment une attaque. Et il fallait être stratège aussi. Il fallait se montrer moins hostile, peut-être, pour essayer de vivre en tant que groupe, parce qu'ils avaient la possibilité de nous faire disparaître. Et je crois que nous avons vécu en tant que groupe tout à fait digne, parce que moi, je dis toujours, vous savez, il y a beaucoup qui lancent des colibés envers nous en disant qu'on a été corrompu, mais moi, je dis, non seulement nous n'avons jamais été corrompus.
Je vais revenir sur ça. Oui. J'ai entendu dire que vous avez été corrompu. En fait, non seulement que vous avez été corrompu, mais aussi parce que, parce que le président de l'UDPS Kibasa, c'était un Katangé, il a préféré se rallier au régime parce que le président actuel fait partie de sa province.
De un, je dois vous dire, je commence par la dernière question, je dois vous dire qu'à l'UDPS Kibasa, il n'y a personne qui est souverain, personne ne peut décider seul. Ça se passe dans les organes, on en discute, on lève une option. Donc c'est dans ce cadre-là que ça s'est passé. Et puis, deuxièmement, par rapport à la corruption, moi je mets quiconque à défi. Je sais que bon, il y a des gens qui se font déjà une idée avant même que je n'ouvre la bouche, qui se disent non, ils sont corrompus. Mais moi, je mets quiconque à défi, et même les corrupteurs présumés, de venir dire quand et où ils ont corrompu l'UDPS Kibasa. Nous avons marché dans la dignité, nous sommes entrés dignement dans cette majorité, nous en sommes sortis dignement. Et nous mettons quiconque à défi. Et quand moi je le dis, et je dois aller plus loin. Personnellement, je dois dire, vous savez, aujourd'hui on parle de Kibasa. C'est un nom qui est connu, ce n'est pas grâce à Augustin Kibasa. Il y a quelqu'un qui s'est battu, qui a fait de ce nom ce qu'il est devenu, et je ne peux pas me permettre de galvauder ce nom-là. Je ne peux pas me permettre de galvauder les efforts qui ont été faits jusque pratiquement au sacrifice suprême. Et moi, j'ai un devoir de mémoire, au-delà du fait que j'appartiens à un groupe, mais je suis fils de Frédéric Kibasa Maliba, qui a tout donné, et qui nous a appris à donner aussi comme lui. Et je ne peux pas me permettre de faire des choses à l'encontre de cette population-là.
Comment vous répondez à ceux qui disent moi-même que votre parti est un parti tribal?
Je vous dis, aujourd'hui le président s'appelle Lulu Maloba, c'est vrai qu'il est Katangé. Le premier vice-président s'appelle Lusanda Ngyele, il est du Kasaï. Le deuxième fils du président, c'est Augustin Kibasa Maliba, il est Katangé, bien sûr, je vous l'accorde. Mais le troisième vice-président, c'est Albert Moleka, il est de l'Équateur. Allez-y me dire que le parti, c'est un parti tribal.
Merci, je crois que ceux qui ont posé cette question ont la réponse. Une autre question, c'est par rapport à la fracture au sein de l'UDPS, Frédéric Kibasa, Étienne Tshisekedi. Mais lorsqu'il y a eu fracture et que Kibasa a décidé de faire route seule, on a eu l'impression que le parti tâtonnait un peu.
Non, je ne pense pas. D'abord, je dois corriger. Kibasa n'a pas décidé de faire route seule. Et vous savez, ici, je vais passer très vite. Pourquoi ? Parce que nous sommes résolument engagés vers la voie de la réconciliation. Donc, je vais éviter de dire des vérités qui blessent. Mais je dois simplement dire que la source du pouvoir à l'UDPS, c'était le collège fondateur. C'est vrai qu'il y a une partie de membres du collège fondateur qui étaient avec Étienne Tshisekedi, mais il y a une autre partie, et majoritaire, qui était avec Ibrahima Maliba. Que chacun se fasse une idée là-dessus. Le parti a tâtonné, moi je ne pense pas, le parti a vécu, et vous savez, nous, peut-être qu'on peut dire qu'on a tâtonné après le décès de Kibasa Maliba, parce que nous n'avons pas l'aura qu'il avait. Peut-être que ça viendra un jour, nous avons beaucoup de fondateurs qui sont là, et des cadres qui montent, des gens qui poussent et qui veulent faire avancer les choses. C'est possible, mais je crois qu'à l'époque, il y avait un équilibre au sein de l'UDPS. Donc, qu'on dise que allez, le parti a tâtonné, je ne pense pas. Il a tâtonné par rapport à quoi? Qu'on me dise au moins à quel sujet exactement, à quel point exactement on a senti que le parti a tâtonné.
À part vous, est-ce que dans votre famille, parmi les enfants, il y en a d'autres qui font aussi la politique?
Oui, absolument. Il y a d'abord notre sœur aînée, qui est députée provinciale belge. Enfin, elle a pris la nationalité belge, elle a été élue députée provinciale en Belgique, et je peux vous dire que c'est une femme qui s'impose au Parti Socialiste. Elle a été aussi prise par cette élégance, hein, ce charme de... Elle était emportée par le charme de feu notre père. Au-delà d'elle, il y a mon jeune frère, qui est aussi d'ailleurs dans l'UDPS, Raphaël Kibasa. Lui qui est pour le moment en France, qui évolue dans la diaspora, mais bon, qui est dans l'UDPS Kibasa. Il y a Isaac Kibasa aussi, qui est à Londres, lui.
Et c'est tout le monde presque.
Mais vous savez, cet homme avait une emprise terrible. Il a réussi à nous communiquer sa vocation. Mais bon, ce n'est pas tout le monde. Hein. Je vous ai cité 4 enfants, mais nous sommes à 14. C'est pour vous dire qu'il y a une bonne partie qui fait plutôt autre chose, mais il y a d'autres qui ont bien choisi de se battre là-dedans. Mais il y a aussi la sœur cadette de notre défunt père, Louise Kibasa, qui est à l'UDPS Kibasa aussi, et qui croit en la politique, qui se bat aussi pour le pays.
Alors, on dénonce souvent le fait que au Congo, les partis politiques sont devenus une affaire des familles.
Bon, c'est possible, mais ce n'est pas du tout vrai dans l'UDPS Kibasa. Je peux vous dire que si Augustin Kibasa se retrouve deuxième vice-président aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est fils de Kibasa, il a un parcours dans l'UDPS, hein. Je peux vous dire, c'est le sort qui a fait de moi membre de l'UDPS, parce que j'avais 12 ans, il faut avoir 18 ans pour devenir membre à part entière, hein, de l'UDPS, mais bon, j'étais là, les choses m'ont trouvé à 12 ans, j'ai évolué dans les cellules ici à Kinshasa, je peux vous dire que quand je suis allé faire mes études supérieures au Canada, j'ai initié une cellule stratégique au Canada, parce que j'ai constaté à l'époque que il y avait comme une certaine léthargie. Avec quelques personnes du comité autour du président, il y avait toujours des réunions avant pour essayer de réveiller un peu les compatriotes là-bas. Donc, et puis bon, revenu ici, je vous ai dit que j'étais élu président de la jeunesse, donc j'étais devenu aussi conseiller diplomatique. Et
donc
puis,
vous
bon,
voulez
je
nous
crois
faire croire que ce n'est pas parce que vous portez le nom de Kibasa ou parce que vous êtes le fils de Kibasa que vous êtes deuxième vice-président.
D'autant plus que le président s'appelle Lumba Maloba, il n'est pas de la famille de Kibasa. Le premier vice-président s'appelle Lusanga Ngele, il n'est pas de la famille de Kibasa. Donc je crois que j'ai mérité d'être là. Ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve là.
Et si demain... Il fallait avoir un Kibasa dans la direction.
Non, absolument pas. Mais il pouvait être ailleurs, le Kibasa. Il ne devait pas forcément être dans la direction. Il pouvait être ailleurs. Je crois que quelque part, si on a voulu qu'il soit là, c'est parce qu'il pense qu'il a... Tout le monde a pensé qu'il a quelque chose à donner, ce Kibasa. Et si demain, on pensait que le Kibasa n'a plus rien à donner à ce niveau-là et qu'il doit revenir à la base ou aller ailleurs... Mais écoutez, je vais me plier, hein, ça fait la décision.
Vous êtes sûr
qu'on
n'allait pas dire que c'est le parti de mon père, je m'impose, je pars pas, je reste?
Non, absolument pas.
Comment
ça
se passe, hein?
C'est l'UDPS Kibasa n'est pas le parti de Frédéric Kibasa Maliba. Frédéric Kibasa Maliba fait partie des fondateurs de l'UDPS Kibasa, enfin de l'UDPS d'ailleurs, hein, et je peux vous dire Kibasa Tshisekedi, c'est le ministère de l'Intérieur qui a donné pour éviter l'homonymie, comme ils ont dit eux-mêmes, mais en fait c'est l'UDPS. Il y a beaucoup de fondateurs. C'est vrai que Kibasa Maliba Frédéric fait partie de ceux qui ont incarné cette UDPS, mais ça ne fait pas de ce fait-là, ça ne fait pas de l'UDPS un parti qui appartient à Kibasa Maliba. Et je peux vous dire que bon, comment je veux m'imposer, parce que ce sont les organes qui élisent les dirigeants chez nous.
Et on va souffler un peu, juste Kibasa Maliba, comment vous passez vos moments de détente, hein?
Du basket, comme je vous ai dit tout à l'heure, de temps en temps de la musique.
Quelle
la lecture
de musique
aussi. Je suis très ouvert, hein, à la musique. Bon, si je dois faire deux choix, ça serait le zouk et la musique congolaise d'une manière générale, mais dans la limite de la décence, bien entendu.
Vous avez parlé aussi de la lecture.
Oui.
Quels sont de livres qui vous intéressent, politique sûrement?
Politique, finance aussi, parce que bon, ça fait quand même longtemps que j'ai quitté l'université, mais bon, on ne veut pas rester totalement inculte par rapport à certaines notions, donc on essaye quand même de lire de temps en temps.
Ouais. Alors on va vous proposer quelque chose, une musique juste pour souffler, c'est la coutume dans cette émission.
Ah d'accord.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Bon, je vais puiser dans ma culture. Hein. On va rester au Congo et je vais chercher quand même une chanson qui évoque le travail. Une chanson que j'ai beaucoup aimée aussi, hein, de Redi Amissi. Si je ne m'abuse, le titre c'est Bomengo Atakala. Ouais. Mm-hmm. Je crois que c'est vraiment une chanson qui évoque le travail. J'aime beaucoup cette chanson.
Alors, on va demander à Riti Sidiakala, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, de nous proposer la chanson Bomengo de Redi Amissi pour le plaisir d'Augustin Kibasa Maliba que nous recevons aujourd'hui dans Grand Témoin, mais également pour le plaisir de tous les auditeurs qui adorent la musique de Redi. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
No cola tras la riqueza, la llave de la riqueza, yo no la tengo, siempre visto conseguirle, hoy la famosa parecerá destruida, no la doteré paz, manera que esperaba mucho tiempo y salió, las cosas cambiarán.
Yo me voy. parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Augustin Kibasa Maliba, en politique congolais, deuxième vice-président du parti politique UDPS Kibasa. Aujourd'hui, vous pensez à la réunification de l'UDPS?
Oui.
Pour quel but?
D'abord, je dois vous dire, beaucoup ne le savent peut-être pas, que depuis l'année 2000, le feu président Kibasa avait déjà lancé cet appel à la réunification. Il y a eu des contacts avec le feu président Boinkem, le feu fondateur Ngalula Pandangila et quelques autres. Mais il est vrai qu'il n'y avait pas encore eu des contacts directs avec Étienne Tshisekedi. Mais de son vivant, le feu Kibasa Maliba avait toujours pensé que c'était important d'unir ce parti, parce que ce parti a porté les aspirations de ce peuple, et que quelque part, je crois sans le dire, il sentait qu'il y avait comme eu une trahison de ce peuple, parce qu'ils nous ont suivis, on s'est disloqués, et nous n'avons pas pu porter le projet que nous avons promis à ce peuple, et qu'il était question de refaire un peu les choses. Malheureusement, de son vivant, il n'a pas pu réussir à mettre en place tout le monde, et nous avons pris ça comme un testament. Pour nous, c'était un testament. C'est vrai que nous avons une autre traversée de désert avec les conflits dans le parti, avec ce moment de pause que nous avons eu dans la majorité présidentielle, et nous pensons qu'aujourd'hui, quand nous regardons la politique telle qu'elle se porte, telle qu'elle se comporte aujourd'hui, telle qu'elle se fait aujourd'hui, nous pensons que l'UDPS devrait reprendre un peu du poil de la bête. L'UDPS devrait revenir à, on va dire, à la vision que les pères fondateurs de ce parti ont eu à porter, avec la lettre de 152 pages, avec la création du parti en 82, pour essayer de changer les choses. Parce que si nous laissons faire, nous courons, je pense, droit vers une catastrophe.
Vous pensez que ça sera facile?
Ça ne sera pas du tout facile. Ça ne sera pas du tout facile, mais je peux vous affirmer aujourd'hui qu'il y a... Il y a des pourparlers qui se font, je n'en dirai pas plus, mais il y a des signes qui nous font croire que c'est vrai que c'est un processus, il ne faut pas rêver, ça ne doit pas se faire en un jour, mais c'est possible, ça peut se faire.
Alors parlons actualité, parlons dialogue, quel est votre point de vue par rapport à la tenue du dialogue?
Nous sommes farouchement opposés à la tenue de ce dialogue, pour plusieurs raisons. Je dois dire, premièrement... Le dialogue, il est permanent hein, dans les institutions. Aujourd'hui, quand vous allez au Parlement, il y a les opposants et ceux de la majorité. Il est permanent, le dialogue. Alors, évidemment, le dialogue, on veut nous faire croire que c'est pour essayer d'aller vers des élections apaisées. Mais je pense qu'il y a un cadre de concertation, parti politique, CENI, dans lequel on peut discuter de toutes ces questions-là. Et je mets quiconque à défi, parce qu'on nous dit non, mais c'est pour éviter les conflits électoraux lors de la proclamation des résultats. Mais moi je peux vous dire, est-ce qu'un dialogue aujourd'hui va museler ceux qui auront envie en temps et lieu de protester ou de faire quoi que ce soit? Non, moi je crois qu'aujourd'hui pour organiser, il faut être conséquent envers nous-mêmes.
Mais puisque déjà dans l'opposition, certains partis politiques, je ne peux pas parler seulement de l'opposition, certains partis politiques ne font pas tellement confiance à la CENI, pourquoi ne pas organiser justement ce dialogue-là pour se dire des vérités en face?
Non, je crois que on se trompe peut-être de fusil d'épaule. À la CENI, il y a tout le monde, hein. Il y a la majorité, il y a l'opposition. Je crois que c'est la gesticulation aujourd'hui du gouvernement qui peut pousser les gens à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais regardez, aujourd'hui on nous dit il n'y a pas d'élection des commissaires spéciaux parce que ça n'a pas été budgétisé. C'est ce qu'on nous a dit. Mais moi je pose alors la question. Donc le dialogue avait été budgétisé parce qu'aujourd'hui on a de l'argent pour le dialogue. Il a été budgétisé, et qu'on nous montre alors dans le budget où se trouve le dialogue. Aujourd'hui, on nous dit, mais vous voyez, comprenez que ce serait difficile de faire les élections, des bonnes élections, d'ici 2016. Mais nous répondons, oui, c'est vrai, ça serait difficile de faire toutes les élections d'ici 2016, mais alors, allons aux élections qui risquerait de créer des problèmes demain, c'est-à-dire les élections au niveau présidentiel, les élections au niveau législatif national et provincial. Je crois que si on a suffisamment de bonne foi, on peut y arriver. Madame, figurez-vous que ça fait plus de 8 mois aujourd'hui, c'est depuis février qu'on nous parle de ce dialogue, qui ne vient toujours pas. Ce dialogue est une distraction.
Qui ne vient pas parce que tout le monde n'est pas d'accord. Il faut convaincre tous les partis politiques à prendre part à ce dialogue.
Non, mais je crois qu'au lieu de convaincre les partis politiques à prendre part à ce dialogue, il s'agit de montrer suffisamment de bonne foi pour organiser les élections. Parce que, madame, depuis 2012, le Parlement fait des allocations budgétaires pour les élections. Et nous avons lu la lettre du rapporteur de la CENI. C'est pas tant. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute ? Ça se voit qu'il n'y a pas de volonté politique d'aller vers les élections. Et ce dialogue, c'est pour nous distraire, pour nous amener droit vers un glissement. Certains parlent d'une transition. On a entendu 3 ans ici. Non, il faut quand même qu'on soit sérieux. Je crois que c'était déjà difficile de se mettre ensemble à Sun City. C'était une crise de légitimité qui fait que le pays a été éclaté en plusieurs morceaux. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir nous emmener encore vers une autre crise de légitimité. Et ce n'est pas du tout sérieux.
Et donc, vous estimez que ce dialogue n'est pas important et qu'il faudrait aller aux élections?
Il faut aller aux élections. Il faut mettre en place les conditions qui permettraient d'aller aux élections. Parce que je ne pense pas, je ne vois pas comment le fait que les gens vont se mettre autour d'une table. Si, en fait, madame, vous savez, est-ce que si nous voulons vraiment organiser des élections crédibles, ou des élections tout simplement en décembre 2016, il y a un cheminement à suivre. Et ce cheminement n'implique pas forcément que les gens se mettent autour d'une table pour parler, parce que tout a été fixé par la Constitution. Le processus est déjà là. Tout est là. Les institutions sont sur place. Qu'on fasse confiance à la CENI, que le gouvernement donne suffisamment les moyens à cette CENI d'organiser des élections possibles d'ici 2016, et que chacun ait suffisamment de bonne foi, que le cadre de concertation parti politique CENI fasse son travail, qu'on fasse confiance à la CENI et qu'on organise des élections.
Augustin Kibasa, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un dernier mot peut-être à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Capi, partenaires d'essai et même à travers le monde grâce à notre site internet www.radiocapi.net.
Merci beaucoup madame, je dois simplement dire à tout le monde que le Congo doit avancer. Personne n'est indispensable pour que ce Congo soit géré. Augustin Kibasa Malba ne l'est pas non plus. Donc cela est vrai pour tout le monde et qu'il est clair aujourd'hui que nous devons tous nous engager dans le processus de respect de la Constitution et qu'on donne la chance à cette population de choisir les personnes qui doivent la diriger demain.
Merci beaucoup, grand témoin. C'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Augustin Kibasa Maliba, homme politique congolais, deuxième vice-président du parti politique UDPS Kibasa. Merci à Héritier Sidiakala qui était à la prise de son au micro Kéline Côté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiotapi.net. Bon dimanche chez vous et bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Merci.